Il n'est pas vert, il est vert, autant pour moi. Bonjour à tous, donc je m'appelle Osvaldo Forêt, j'ai été déjà soutenu par la Fondation de France pendant mon doctorat que j'ai effectué à l'UMR Système à Montpellier. Et là maintenant je suis à l'université, à l'INRA de Gautron dans la Drôme, où je travaille sur un projet de postdoc de 2 ans. Je suis à la fin de la première année, sur cette histoire de principes écologiques. Est-ce qu'on peut utiliser des principes écologiques pour créer une méthode de conception pour les agroécosystèmes? Donc, si on regarde juste la figure au centre, ma vision du début, c'est que, à partir de principes écologiques tels que le partitionnement temporel de niches, le fait que les espèces cohabitent ensemble, notamment parce qu'elles partagent des niches dans l'espace, dans le temps, pardon, ce serait du coup un principe écologique. On peut en déterminer un principe de conception, créer un décalage phénologique entre les espèces et aboutir du coup à un ensemble de pratiques à différents endroits du monde. Donc, je me suis posé cette question-là dans un cadre plus générique que l'agroforesterie, dans le cadre de l'agroécologie, en considérant que l'agroforesterie faisait partie intégrante de l'agroécologie et que si j'étais au niveau supérieur, ça marcherait forcément au niveau inférieur. Du coup, dans l'agroécologique et de l'ingénierie écologique, on peut opposer un peu cette approche par les processus ou les principes. Les processus, dans le sens où si je connecte, je quantifie toutes les dimensions de la niche écologique, le cycle de vie de l'animal, les réseaux trophiques, je peux peut-être en déduire la dynamique des populations et arriver à fournir un cadre spatial, donc faire de la conception à partir de ces données-là. Le problème des processus, c'est que ça nécessite énormément de connaissances qui sont souvent contingentes au site là où on est. Et donc, moi, je me suis dit, est-ce qu'avec des principes, on ne peut pas aussi faire de la conception? Si je sais que dans un écosystème, les éléments chimiques sont recyclés à travers les chaînes trophiques, c'est un principe de base, on va dire. Est-ce que je ne peux pas en déduire un principe de conception, positionner les éléments du système pour que les produits deviennent les ressources d'un autre et avec un diagramme des flux, voir comment positionner les éléments spatialement dans l'espace, faire de la conception. Du coup, les questions de recherche, c'est quels sont les principes écologiques reconnus, hein, faire un état des lieux, et puis est-ce qu'on peut s'en servir pour faire des principes de conception, et est-ce que ça remplace ou complémente l'approche par les processus. Donc, la première phase, j'ai eu besoin d'une méthode, puisque j'étais censé relier ces trois choses-là, principes écologiques, de conception et pratique. Je me suis mis à faire des lectures. Je tombe sur une lecture de publication qui explique que les parasitoïdes, dans le cadre de la régulation naturelle, ont besoin, quand ils sont adultes, de nectar pour survivre, et que si on veut maintenir les populations à un niveau haut, il ne faut pas uniquement leur fournir leur proie, mais également du nectar. Donc, effectivement, une des pratiques, c'est implanter des plantes productrices de nectar. On peut en déduire un principe écologique. Les populations peuvent se maintenir dans le système si toutes les composantes de leur régime alimentaire sont présentes. Un principe de conception. Alors là, je me suis un peu trompé, ne le lisez pas, c'est pas grave. Et après, voilà, toujours dans la méthode, en fait, ce n'était pas suffisamment clair. J'avais besoin d'objectifs, hein, l'objectif agronomique, réguler les populations de bons agresseurs, l'objectif écologique, fournir la composante nourriture. Du coup, on en déduit un objectif agroécologique, des implications qui, des fois, sont complètement identiques aux pratiques, mais des fois différentes et aident à réfléchir. Et puis, on en arrive à des outils. Ben, il me faut des fiches de ressources alimentaires des auxiliaires, des fiches plantes productrices de nectar, si je veux arriver à donner des pistes pour la conception. Et bien sûr, on peut avoir plusieurs pratiques qui correspondent au même principe. Là, je veux implanter des plantes productrices de graines pour certains autres auxiliaires qui ont besoin de graines, etc. Le problème, c'est que ce principe-là, composante de leur régime alimentaire, il n'y a pas que celui-là, il y a tout le cycle de vie. Il faut produire des abris d'hivernation, des sites de reproduction, des refuges temporaires, etc. Et donc, on en arrive à un méta-principe, un truc un peu plus haut, qui est un principe de base. Voilà, les populations peuvent se maintenir dans le système si toutes les composantes de la niche écologique sont présentes. Donc, on voit l'esprit du principe, des phrases très génériques, mais qui découlent petit à petit à des pratiques peut-être différentes. Donc, pendant l'élaboration de cette méthode, j'ai élaboré moi-même 50 principes pour éprouver la méthode. Et une fois que c'était un peu stabilisé, que j'avais plus besoin de rajouter des boîtes, on va dire, je me suis dit, tiens, pourquoi j'ai pas pris le problème comme j'aurais dû le prendre, c'est-à-dire partir dès le début sur de la biblio, qu'est-ce que c'est que les principes écologiques? Donc, je suis passé à cette phase-là. Et je me suis rendu compte qu'un principe écologique, le mot principe a plusieurs sens. J'aurais peut-être eu besoin d'une ontologie, du coup. Là, le principe, c'est une loi fondamentale de la nature, comme les lois de la physique, les lois de Newton. Ici, j'ai mis un écosystème possède toujours au moins deux guildes, car aucun organisme n'est capable de compléter le cycle des minéraux seul. Il faut toujours un producteur primaire et des décomposeurs au moins. Alors qu'un principe de conception, c'est plutôt le précepte, le motif qui commande l'action. Mettre de la biodiversité dans le système, comme pourrait dire Maître Yoda, par exemple. Et du coup, je me suis parti donc dans cette récolte biblio de « Ouh, c'est mauvais signe ça, dans les lois écologie. » Et là, grosse embrouille, les lois en écologie existent-elles? C'est une controverse qui existe depuis très longtemps. Si on s'attend à ce que les lois soient, comme les lois de la physique, universelles, explicatives, invariantes et prédictives, en écologie, ça va être compliqué. On a des lois qui s'appliquent qu'aux oiseaux, des patrons statistiques dont on ne connaît pas les mécanismes. Les lois de la sélection naturelle sont des fois les résultats imprévisibles. Et bien sûr, beaucoup d'exceptions. On peut avoir différents patrons pour la même loi. Du coup, les philosophes des sciences nous apportent le concept de force ou nécessité nomique, de nomos en grec ancien qui veut dire loi, pour savoir si vraiment la loi, elle peut être utilisée les yeux fermés, quoi. Ça dépend en fait de différents degrés, différentes caractéristiques. Donc j'ai repris différents auteurs qui disent que une loi va être d'autant plus forte, plus qu'elle est invariante. Si elle est sur plusieurs types d'habitats, sur plusieurs espèces, sur plusieurs échelles de taille, etc. Et j'en arrive donc à une centaine de principes récoltés que je passe au crible de cette analyse. Est-ce que je leur donne une note? Est-ce qu'ils sont vraiment invariants à travers ce que je viens de dire? Est-ce que c'est plutôt des lois explicatives? Est-ce qu'il y a des exceptions? Est-ce que c'est dans des situations idéales? Est-ce que c'est prédictif, etc., etc. Et l'idée, c'est d'arriver à une note ici pour la relation hétérogénéité-diversité. Plus il y a d'hétérogénéité dans le système, plus il y a de diversité. Ben là, elle aurait une note très élevée. Et la troisième phase, donc, c'est la fusion de ces deux approches. Passer au crible de la force nomique, pas celle de Maître Yoda, du coup, mais celle des philosophes des sciences, les principes que moi, j'ai inventés, et voir au contraire les principes qui sont mis en avant par différents auteurs dans la littérature, ce qu'on peut en faire pour l'agroécologie et l'agroforesterie, du coup. Et puis, j'ai réfléchi un petit peu à une méthode de conception aussi, parce que c'était ça l'objectif. Est-ce que les principes ne vont pas être insuffisants pour la conception? Ce qui ne va pas de toute façon falloir passer par les processus, ce qui implique que, comme c'est très contingent, chaque écosystème étant différent en fonction des espèces qui sont présentes, des interactions qui se mettent en place, que l'agriculteur devienne aussi observateur ou s'associe avec des observateurs expérimentateurs pour produire de la connaissance. Du coup, je me suis dit qu'il faudrait faire peut-être une méthode évolutive où on aurait des fiches qui permettraient, sur chaque ferme, de remplir des observations pour augmenter la connaissance. Et puis se baser sur des approches qui sont déjà mises en avant dans la biblio, qui ont l'air très prometteuses et très fonctionnelles pour associer la biodiversité, la succession écologique, dans quel gradient on se place, l'écologie des paysages, augmenter l'échelle, et puis la sélection ou l'agroécologie évolutive pour... la coévolution, la sélection, etc.
Osvaldo ?
Ouais, j'ai fini. Du coup, je me posais cette question-là. Est-ce qu'il faut que je continue à creuser les principes pour aboutir à des conclusions solides quitte à sacrifier la méthode, ce à quoi je me suis engagé, ou travailler à la méthode de conception, mais sur des conclusions partielles? Je pense que je vais faire un peu les deux. Et en tout cas, il y a énormément de connaissances dans l'écologie, et l'écologie appliquée, ce n'est pas très simple.
Ouais. Bien, je passe le micro aux discutants. Que la force nomique soit avec vous. Merci beaucoup, Osvaldo. C'est vrai qu'on peut se poser la question, et je reviens très terre à terre. On a discuté ensemble hier soir. Pour toi, tu crois vraiment que cette méthode, ou qu'il existe une méthode capable de coupler l'ensemble de ces pratiques en corrélation avec les systèmes? Tu y crois vraiment? Parce qu'on a l'impression que non.
C'est-à-dire?
Est-ce que tu crois qu'au final, il y a une méthode, une façon de faire, pour pouvoir coupler et mettre un outil support? Est-ce que tu crois qu'on peut collecter tous ces domaines, y compris agricoles, tous les facteurs agricoles, pour concevoir cet outil, réellement?
Quelque part, si on suit une approche un peu hiérarchique, un peu comme dans l'ontologie où on relie les choses entre elles, on peut aller de la pratique jusqu'à un principe le plus générique possible. Et après, si on s'inspire de ce principe générique, sur sa ferme, on peut se dire, ah ben moi, je vais faire telle pratique et je vais renseigner une base de données quelque part où j'aurais mis cette pratique qui se raccroche à ce principe. Et dans d'autres conditions, sur une autre ferme, avec ce même principe, on va peut-être s'inspirer de cette pratique pour en faire une un petit peu différente. L'idée, ce n'est pas de forcément être exhaustif sur toutes les pratiques, mais si on est exhaustif à un niveau suffisamment haut, après, ce sera à chacun de faire ces liens-là et d'alimenter un truc en évolution. Oui, non, moi, je ne pourrais pas, à la fin des 2 ans, produire le truc ultime.
Pour en avoir fait un peu de collecte agricole, c'est très, très, très compliqué. C'est pour ça que je te posais cette question, en fait.
Oui, moi, ton travail me perturbe, Osvaldo. Je me demande comment une approche par les principes peut gérer ce qui fait l'essence même de la découverte, c'est-à-dire l'inattendu. Il y a un concept, moi, qui me plaît beaucoup en épistémologie, c'est la sérendipité, c'est-à-dire de trouver quelque chose par hasard. Si on part des principes, on ne trouvera rien par hasard. Et donc, je me demande comment une démarche basée sur les principes peut aboutir à quelque chose de neuf.
Vous avez une réponse, vous, non? Alors, aboutir à quelque chose de neuf. Alors, est-ce que c'est déjà ça l'objectif? Moi, dans ma vision, c'était rassembler justement les connaissances existantes et l'approche par les principes. C'est justement le principe en tant que loi fondamentale de la nature, ce à quoi s'attellent les scientifiques en fait depuis le début. On cherche à comprendre comment ça marche. Et la question que je me posais, c'est en écologie, est-ce qu'il y a ces principes comme on a des principes universels de la gravité en physique donc ces principes, je ne sais pas pourquoi il faudrait. On peut découvrir des choses par hasard, oui. Mais là, l'idée, c'est de s'appuyer sur des mécanismes, choses dont on est sûr qu'elles fonctionnent de cette manière-là. C'était pour voir qu'est-ce que l'écologie apporte dans l'agroécologie, dans le mot, tu vois.
En général, en science, on ne trouve pas par hasard. Il y a des exemples célèbres, mais voilà. On trouve un peu par hasard. Mais la démarche scientifique classique, elle est par essai-erreur. Elle est plus basée sur une exploration des processus par essai-erreur. Et c'est vrai que ça fait par exemple 15 ans à peu près qu'on me bassine les oreilles en me disant les agronomes doivent mettre de l'écologie dans leur pratique. Bon. Et on a essayé. L'exemple typique que probablement beaucoup de gens dans cette salle ont dû travailler sur les traits fonctionnels, notion que tu évoques dans ta presque dernière diapositive. J'ai encore aujourd'hui du mal à trouver des publications convaincantes où une approche très fonctionnelle ait apporté quelque chose en agronomie. Peut-être vous avez des contre-exemples dans la salle, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, donc quand tu listes à la fin finalement les pistes par lesquelles l'écologie peut nous faire faire des progrès, j'ai du mal à être convaincu. Est-ce que toi, tu es convaincu?
Suis-je convaincu? Pas encore, complètement. Une des vieilles définitions de l'agronomie, c'était l'écologie de la parcelle cultivée. Au final, il y a déjà de l'écologie, forcément, puisqu'on travaille avec du vivant.
Ça, c'est l'approche systémique.
Là, l'idée, c'est de passer de l'auto-écologie, justement, où c'est l'écologie de la plante. On regarde ses conditions, le pH, la température, sa réponse aux facteurs climatiques, l'ensoleillement, etc., à la synécologie, où là, c'est les interactions entre les espèces. Et ce qu'il y a dans l'agroécologie, c'est que ça reste une hypothèse de travail. C'est-à-dire qu'on va essayer de la tester et de voir où elle va. On ne met pas en avant que forcément ça marche et forcément ça va être bien. Mais ça, c'est le premier point. Et sinon, justement, c'était pour me convaincre que l'écologie, il y a quelque chose dedans, que j'ai fait ce travail. Je voulais voir si on avait des choses solides, notamment à travers ces principes. Et pour moi, c'était la position hiérarchique la plus haute. Si on a une loi fondamentale, une loi universelle, comme on a en physique, dans le sens du mot principe écologique, forcément, je peux m'appuyer dessus et il faut à moi de voir comment je peux m'en servir en agroécologie, en agroforesterie. Et si c'est très solide, il faut que je m'en serve quelque part. Et sinon, l'approche par les traits fonctionnels, il y a ces études de Damour sur les bananes, où ils ont choisi des couverts végétaux pour éradiquer les mauvaises herbes et améliorer les rendements bananes. C'est un des exemples que je connais qui marche bien.
Alors, dans la salle, il y a des spécialistes de la biodiversité, de l'écologie.
Oh là là.
Bonjour, merci Osvaldo, c'était vraiment passionnant. Oui, je me présente Aurélien Cohen, je suis doctorant en philosophie des sciences et en géographie, et ça m'intéresse d'autant plus que c'est cette question de la nomologie dans les sciences du vivant, de la production de lois, c'est à peu près exactement un des axes de ma thèse. Donc on pourra en discuter. Et justement, moi, une des choses qui m'intéresse en philosophie de la biologie, c'est l'approche, par exemple, de quelqu'un comme Jean Gaillon, qui va venir questionner la possibilité même de produire des lois en biologie. Et qui va, lui, plutôt parler de généralisation accidentelle, c'est-à-dire qu'on va avoir un degré de généricité possible dans l'explication, mais qu'à aucun moment, on peut produire ce qui est ce qui est idéalement une loi en physique, puisqu'il y a même des philosophes des sciences qui questionnent le fait qu'il y ait vraiment des lois en physique, puisqu'il y a des biais de perspective, il y a toute une série de problèmes la physique post-newtonienne, on se rend compte que finalement, en fonction de l'endroit où on se trouve dans l'espace, dans le temps, c'est pas forcément généralisable en tout temps et en tout lieu, une explication. Et donc, du coup... là où je voulais en venir, oui, c'était sur le... Bon, on rediscutera plus longuement de tout ça, mais j'ai remarqué que tu faisais un lien entre Odum et Mollison, que j'ai trouvé particulièrement intéressant, et je voulais t'interroger sur ce que tu fais de la méthode de conception en permaculture, justement, théorisée notamment par Mollison, et dans laquelle il y a une intégration du processuel, c'est-à-dire qu'il vient de façon très forte, très influencée par l'écologie odumienne et les principes de cette écologie-là, et en même temps, il intègre dans la méthode de conception une processualité et le fait de revenir toujours, accepter les rétroactions, etc., revenir sur les principes du design de base, et qu'il y a toujours une sorte de remise des principes de conception sur le métier de l'écologie située de l'agroécosystème. Et est-ce que c'est pas ça, finalement? Est-ce que déjà cette méthode-là de conception, elle résout pas ce problème de principe-processus, quoi? Voilà, j'ai été un peu long, pardon.
Merci pour la question. Alors, effectivement, l'approche de Mollison, en fait, elle est en toile de fond au début du projet aussi. Parce que dans cette boucle qu'on revoit très souvent dans les publications qui parlent de conception, ils disent que c'est comme ça, notamment, qu'on peut faire de la conception. On fait un diagnostic, on fait de la conception du nouveau système, une évaluation, on fait un prototype, et puis on fait une boucle, on revient au début s'il faut améliorer des choses. Mais moi, je reste sur ma faim parce que dans le cadre conception, en fait, on n'a pas d'outils, on ne sait pas comment faire exactement. Donc, chacun fait un peu différemment. Et la seule méthode que j'avais connue, moi, c'était celle de Mollison en 1988 dans le manuel du concepteur, un livre qui est passé un peu inaperçu du public français puisqu'il n'a jamais été traduit, où effectivement, il s'appuie sur essentiellement Odum et Watts, des écologues des années 70 qui avaient commencé à théoriser justement avec des principes le fonctionnement des écosystèmes, et lui, il en déduit une demi-douzaine de principes, de conception cette fois-ci, donc des choses à suivre, et aussi deux, trois aides de conception spatiale, avec l'histoire d'analyser en secteur et en zone la ferme sur laquelle on travaille. Et donc, moi, je voulais voir si on ne peut pas aller plus loin, parce que déjà, il y a des choses sur lesquelles s'appuie la permaculture qui ne sont pas vraies. Le fait que les écotones aient plus de biodiversité, et donc il faut augmenter les écotones, c'est-à-dire les limites entre deux systèmes, c'est, moi, de ce que j'ai vu pour l'instant, ce n'est pas un principe. On ne peut pas l'ériger en loi, il y a énormément d'exceptions. Et donc l'idée, c'était de faire un état des lieux. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce qu'on en sait plus que dans les années 70 ou pas? Et de ce que je vois, c'est qu'il y a énormément de principes mis en avant par des auteurs qui ont déjà tous été édifiés dans les années 70, et on est encore en train d'essayer de les comprendre, ou de les tester, ou de comprendre les mécanismes. Donc on a avancé en écologie, mais les grandes règles, les grandes lois, ça semble encore très compliqué. D'où ma vision de, puisque de toute façon, l'agriculture, l'agroécologie, elle va être à une échelle où on va être beaucoup dans l'écologie des communautés, donc les interactions entre toutes les espèces qui sont présentes, moins à l'échelle de la macroécologie, c'est-à-dire de l'évolution des espèces et des patrons à travers le monde, un peu à l'échelle du paysage. On est à une échelle typiquement où c'est très variable d'un site à l'autre, d'un lieu à l'autre. Par contre, le gros avantage des agroécosystèmes, c'est qu'ils sont simplifiés et c'est des terrains de jeu idéaux pour justement produire de la connaissance en écologie, tester les règles d'assemblage des communautés, tester les traits fonctionnels, etc. D'où ma vision de l'agriculteur expérimentateur ou associé à des expérimentateurs pour produire de la donnée qui va être forcément contingente, spécifique à chaque lieu, mais il faut qu'on aille plus vite, j'ai l'impression quand même, avec les histoires de changement climatique qu'on prend peut-être pas assez au sérieux ou on sait pas trop comment faire dans nos vies, dans nos professionnels chacun différentes, mais dans le métier de la recherche et de l'agriculture, je pense qu'il faut qu'on aille plus vite à produire de la connaissance en agroécologie. Et le plus facile, le plus évident, le plus logique, c'est de la faire directement dans le champ avec les agriculteurs pour justement voir ces processus, les quantifier, les mesurer et les piloter, parce que c'est ça qu'on veut faire.
Jérôme Cazas de Tours, je suis écologue, du coup, c'est une tâche herculéenne, ce que vous avez entrepris, ça paraît beaucoup pour un seul homme, sincèrement, sur une durée de 2 ans, surtout que les écologues se battent entre eux depuis tellement longtemps pour savoir ce qu'ils en pensent, mais je trouve que vous êtes quand même un peu dur, parce que si on reprend la lutte biologique classique, elle a quand même des principes assez bien établis écologiques qui font que depuis 200 ans, elle marche plutôt pas mal. C'est une application de l'écologie à un sous-domaine de l'agronomie. Aller rechercher les ennemis naturels dans le lieu d'origine du ravageur, par exemple, prendre des espèces qui ne sont pas polyphages, ça semble assez simple, mais ça, c'est des principes quand même, au final. Et puis après, vous m'avez fait penser à un livre de Vandermeer. Alors, il en a écrit plusieurs, Vandermeer, en agroécologie, mais le dernier qu'il a écrit en 2017, ça vaut la peine que vous le regardiez, peut-être si vous ne le connaissez pas, parce qu'il a décidé de prendre, je crois, 6 grands principes écologiques qu'il applique à l'agronomie, en particulier ce qu'il a fait au Nicaragua avec le café et l'agroforesterie sur le café. Et il commence, par exemple, je me rappelle d'un chapitre qui s'appelle « Toutes les relations sont non linéaires ». Autre chapitre, l'espace doit être pris en compte, qu'on n'a pas trop vu dans votre présentation. Il a ces grands chapitres, mais je ne sais pas jusqu'à quel point ça c'est déclinable dans une parcelle bien particulière. Je crains que ces principes que vous cherchez tout en haut soient tellement hauts que du coup vous ayez un vrai problème de saut pour revenir sur votre parcelle.
Oui, complètement. Je suis en train de faire ce travail de hiérarchie pour voir les principes les plus hauts, ben, clairement qui ne servent à rien en quelque sorte, mais par contre, qui relie des principes un peu plus bas qui, eux, vont aboutir à quelque chose de plus fonctionnel. Et oui, sur la première partie de la question, c'est vrai que je suis peut-être un peu dur parce qu'en 5 minutes, il faut prendre le parti de quelque chose. C'est dur, 5 minutes. Hein. Et du coup, c'est vrai qu'on a ces principes-là pour la régulation naturelle, mais au final, si on n'arrive pas encore à réguler le puceron cendré en pommier, c'est parce que il faut aller dans les processus pour voir les niveaux de population des auxiliaires, pourquoi on n'arrive pas à les maintenir à un niveau suffisamment haut pour avoir le résultat escompté de contrôle, voir toutes les interactions qu'il y a avec les histoires de prédation intra-guilde et autres, par exemple, si mes auxiliaires se font croquer, à quoi ça sert, la diversité du paysage qu'il faut avoir, la densité des arbres, est-ce qu'il ne faut pas la diminuer. Et si je ne mesure pas tout ça, que je ne quantifie pas et que je ne fais pas des expés comparatives, j'ai beau appliquer les principes, ça va marcher dans certains cas parce que le contexte était idéal. Je pense à un agriculteur qui fait partie du réseau SMART, là où on mélange l'agroforesterie avec le maraîchage, à Saint-Hilaire-du-Rosier, Cyril Fatou. Pendant la visite, il nous dit « Moi, ça fait 7 ans que j'ai plus de problème de pyrite du chou. Et je sais pourquoi, je vois bien mes chenilles qui sont parasitées. » Elles gonflent, elles explosent, c'est dégueulasse. J'aimerais pas le voir d'ailleurs, mais du coup, il y a des parasitoïdes qui pondent dedans et ça régule complètement sa pyrite du chou. Et lui, donc, il a 7 bandes de maraîchage qui sont calées sur son matériel, qui doivent faire 1,50 m. Il a des arbres fruitiers entre, il a des haies, il a beaucoup d'arbres partout. Mais au final, qu'est-ce que je fais pour transférer cette connaissance sur un autre site? Est-ce qu'il faut dire, faut faire exactement comme chez lui, telle plantation, telles espèces, telle distance? aussi bien, c'est parce que bah, chez lui, il y avait déjà les auxiliaires qui étaient présents en population suffisante parce que le paysage l'expliquait. Où elles sont venues, parce qu'il y a effectivement cet assemblage spécifique de biodiversité, mais lequel ? Et voilà. Et j'ai l'impression que si on ne passe pas par les processus, c'est-à-dire le processus de prédation, etc., si on ne les quantifie pas, qu'on les mesure et qu'on ne les observe pas, l'approche par les principes va nous donner des grandes lignes génériques, mais on ne va pas avoir d'itinéraire technique applicable et transférable d'une ferme à l'autre. Quoi.
Oui, Hervé Coquillard, donc je suis actuellement instructeur Fondation de France. Et pendant 25 ans, j'ai géré des actions de restauration, gestion d'écosystèmes en lien avec des pratiques agricoles, soit des conventions agricoles. Et avant, j'avais fait de la recherche en modélisation en écologie. Donc, votre sujet m'interroge particulièrement. Et en fait, pendant 40 ans, on m'a toujours dit trouver des modèles qui s'appliqueront partout comme on le fait en physique. Et j'ai toujours dit qu'on ne pouvait pas. Et la modélisation qu'on propose en écologie, ça permet d'analyser une situation en un lieu donné et ensuite d'être une base pour la tester ailleurs, pour interroger, puis enfin des allers-retours, une espèce de dialectique. Et je ne vois pas comment on peut avancer autrement en assumant la complexité des écosystèmes qui n'est pas du tout la même que dans des systèmes beaucoup plus simples tels qu'on peut en avoir en physique. Donc moi, le modèle, les lois générales et des modèles sont intéressants dans la mesure où ils servent simplement à être une base pour une nouvelle expérimentation, de nouveaux tests et qu'il y a un jeu de dialectique.
Ben super. Mais oui, mais en tout cas, je pense que ce travail, il était important de le faire pour établir, alors je ne sais pas si je vais y arriver, mais au moins dans les grandes lignes, oui ou non, l'approche par les principes, elle va quelque part. Ça permettra soit d'aller dans le sens des approches comme la permaculture qui disent que oui, ou au contraire, d'aller dans le sens d'autres, plus de l'agroécologie qui dit que c'est plutôt dans les processus qu'il faut aller et dans la compréhension de chaque système spécifique.
Bien, eh ben merci Osvaldo. On va passer à la troisième présentation de la matinée et après on fera une pause d'une demi-heure. Donc Guillaume. Donc Guillaume Blanchet de l'INRA, UMR Système, Agroforesterie, changement climatique.